que j'avais travaillé beaucoup déjà sur le statut des femmes dans les pays musulmans, sans spécifiquement m'arrêter par exemple sur le Coran. Et chaque fois, on passait de la tradition au texte sacré sans jamais préciser ce qui motivait le statut des femmes, ce texte sacré qui disait qu'on devait se comporter de cette façon avec les femmes, qu'elles devaient se comporter de telle façon, ou si c'était la tradition qui le voulait. Donc j'ai décidé d'approfondir cette connaissance à travers l'étude du Coran, par exemple, pour voir un peu ce qu'il en
donc
était.
Donc tu as distingué la tradition
et le Coran.
Le texte, oui.
Encore qu'il soit très difficile aujourd'hui de faire une séparation stricte entre la tradition et le texte lui-même, dans la mesure où le texte lui-même reprend la tradition de l'Arabie du 7e siècle. En la modifiant un peu, ou en légiférant autour d'elle, donc en la structurant. Mais il y a beaucoup de choses qui sont relatives aux femmes et qui ressortent de la tradition, de la façon dont les femmes vivaient à cette époque-là.
D'accord. Alors, bon, donc, tu as d'abord écrit le texte sur la femme voilée, avant de passer au texte sur le Coran et les femmes.
Excuse-moi, je ne passe pas sur un seul coup de fil.
Bon, il y a eu d'abord la femme voilée.
Oui.
Hein? Alors, on pourrait peut-être parler de la signification du voile dans le monde musulman, parce que ça intéresse sûrement.
Oui, oui, volontiers. Le voile à l'origine et le voile aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le voile à l'origine, beaucoup de sociétés, sinon toutes les sociétés pratiquement, voilaient leurs femmes dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc. Même au Moyen-Âge occidental, les femmes portaient, voilà. Et jusqu'à récemment, même en Europe, dans les années 40, une femme qui sortait sans chapeau.
Et voilette.
Pas forcément voilette, mais en tout cas chapeau.
Oui.
Était considérée comme une femme qui n'était pas une femme honorable. C'est très drôle.
Ça avait beaucoup les intéressés.
Oui, c'était pas une femme qui sortait, comme on disait à l'époque, en cheveux, c'est-à-dire qui montrait ses cheveux, n'était pas considérée comme une femme honorable. De même qu'elle portait des gants, cachait ses mains.
Oui.
Autrement dit, la femme cachait son corps et ses cheveux. Un peu selon les traditions antiques qu'on retrouve d'ailleurs dans le judaïsme, les femmes depuis l'époque rabbinique rasent leurs cheveux quand elles se marient ou portent perruque. Enfin bon, le cheveu a un rôle extrêmement important
dans l'amour,
dans toutes les civilisations.
Oui.
Autrement dit, le cheveu est un objet sexuel, de toute évidence.
Aujourd'hui, c'est le chapeau qui est un objet sexuel. Et le gant
Les gants, ça cache les mains, c'est-à-dire que ça cache aussi le contact direct avec la main de l'homme si jamais une femme tend la main à un homme. Or ça, on retrouve aussi ça dans le judaïsme et dans l'islam. L'interdiction du contact physique, même à travers la main, entre un croyant et une croyante qui ne lui est pas apparentée. C'est-à-dire que tu touches la main de ta sœur, de ta cousine, tu peux l'embrasser, mais tu ne touches pas la main d'une femme étrangère, à ta famille. C'est dans l'ordre des convenances et de la décence. Donc le voile, c'est pas une histoire nouvelle. Simplement, il est probable que les femmes n'étaient pas systématiquement voilées à l'époque de Mahomet. Et quand il a dû partir de la Mecque à Médine parce qu'il a été chassé par les gens de la Mecque qui ne voulaient pas d'un prédicateur qui demandait que les riches fassent l'aumône, qui trouvait que les inégalités sociales étaient trop grandes, etc., etc. Quand il s'est retrouvé à Médine, où apparemment les femmes n'étaient pas toutes voilées, il n'y avait pas de signe extérieur de reconnaissance de la croyante par rapport à la non-croyante. Bon, donc il fallait déjà marquer un clivage entre la croyante et la non-croyante. Il fallait également marquer le clivage entre
Ce clivage, peut-on l'assimiler au clivage entre le bien et le bon et le mal?
Oui, dans la mesure où tous ceux qui ne croient pas en la religion vraie, c'est le mal. Donc, il y a déjà cette forme de clivage, et que c'est la période de grand prosélytisme de Mahomet à Médine. Donc, il y a en effet cette séparation, comme on trouve ailleurs, des différenciations alimentaires, des interdits alimentaires qui se différencient précisément de ceux qui n'ont pas ces mêmes interdits.
Parallèlement, le voile, c'est un phénomène de reconnaissance de la femme libre par rapport à la femme esclave.
Oui.
L'esclave n'étant pas voilée, elle a travaillé, un voile est vraiment très encombrant de ce point de vue-là.
Mais c'est aussi un phénomène urbain. C'est-à-dire que dans les campagnes, les femmes n'étaient pas voilées. Dans les campagnes, et les femmes nomades non plus. Mm. Et encore aujourd'hui, les femmes nomades ne sont pas voilées. Mm. Les femmes urbaines se voilent parce que en ville, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le contact avec l'homme étranger. Mm. Dans un village où la famille, c'est le village tout entier, en quelque sorte. C'est le clan. C'est le clan. Mm. C'est petit en général. Les femmes n'ont pas besoin de se voiler. Elles n'ont pas à se voiler devant leurs cousins, leurs frères, leurs pères, leurs oncles, etc. En ville, les situations sont différentes. Donc, pour ne pas avoir de contact avec l'étranger, il y a le voile. Ça, c'est à l'origine. Mais à l'origine aussi, il n'y a pas de précision dans le texte sur la façon dont on doit porter le voile. Sur ce qu'est le voile, quel genre de vêtement est le voile. Il est simplement dit qu'il faut cacher ses atours et cacher sa gorge.
Il n'est pas... Atours veut dire quoi exactement?
Non, les atours, ce sont les bijoux, tout ce qui te rend plus belle.
Ah oui.
Tout ce qui te rend plus belle.
Et ta gorge.
Et la gorge. Et... Il n'empêche que quand tu te promènes dans les campagnes, souvent tu vois des femmes qui portent le voile sur la tête, mais dont les seins sont à l'air, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de se couvrir complètement, ou que leur costume est un peu bizarre. Tu vois ça en particulier chez des femmes âgées.
Mais la gorge à cause de la bouche, comme un bras.
Non. On ne dit pas qu'il faut cacher le... La gorge, normalement, c'est ça.
Tout ça.
Oui. Ça inclut les seins, dans le vieux français. La gorge, ce sont les seins également. Mais il n'y a rien qui indique donc la façon dont il faut porter ce voile et comment il l'est fait. De même, ce n'est pas une obligation devant Dieu de porter le voile, mais c'est un moyen de se protéger des hommes et de protéger les hommes de la séduction des femmes. Donc c'est quelque chose d'éminemment temporel. Et il n'y a pas d'obligation, c'est une recommandation dans le Coran. Et aujourd'hui, par exemple, enfin à l'époque contemporaine, le voile a été utilisé pour des raisons politiques dans beaucoup d'endroits. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, le FLN, c'est-à-dire le mouvement de libération nationale qui se battait contre la colonisation française, poussait ces femmes, les femmes algériennes, musulmanes, de remettre le voile alors que beaucoup d'entre elles ne le portaient plus, surtout en ville, pour bien montrer leur adhésion au FLN contre la colonisation française. Alors que les militaires français faisaient pression sur les femmes algériennes musulmanes pour qu'elles retirent le voile afin qu'elles montrent bien qu'elles étaient favorables à l'Algérie française. Autrement dit, on voit des deux côtés l'utilisation
de la femme
et du voile comme symbole politique. On a vu la même chose en Iran. Beaucoup de femmes étaient totalement dévoilées en Iran, encore une fois particulièrement dans les villes. Et au moment de l'arrivée au pouvoir de Khomeini, elles se sont voilées pour bien montrer qu'elles étaient d'accord avec Khomeini et la chute du Shah. Et à partir du moment où Khomeini a imposé le voile, alors là il y a eu des réactions des femmes. Mais c'était trop tard et le voile leur a été imposé.
D'accord. Puis après Tu veux dire encore quelque chose sur le voile à l'heure actuelle ou pas?
Le voile, aujourd'hui, le voile est lié plus à la tradition qu'à l'islam, puisque, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la tradition, depuis très longtemps, veut que les femmes se voient. Mais dans les pays où l'islamisme radical est devenu très important, où il veut se manifester très fortement, un des premiers mouvements, une des premières actions de ces islamistes, c'est d'imposer le voile aux femmes.
Et ça s'est passé dans quel pays?
Alors ça s'est passé par les islamistes en Algérie, par exemple, qui imposaient aux femmes le voile. Ça a commencé en Égypte, où les frères musulmans, les étudiants frères musulmans, qui est un des premiers mouvements islamistes, disons de l'époque contemporaine, empêchaient les filles d'entrer à l'université si elles n'étaient pas voilées, leur jetaient de l'acide sur les jambes, ou de la peinture sur les jambes, comme en Algérie d'ailleurs, si elles n'étaient pas voilées, etc. Donc c'est beaucoup de filles qui se sont voilées pour pouvoir continuer leurs études et pour pouvoir ne pas être importunées par ses frères musulmans. Le premier mouvement, ça a été ça. C'est là ce qui s'est passé, par exemple, avec les talibans en Afghanistan, où en ville en particulier, et surtout à Kaboul, beaucoup de femmes n'étaient plus voilées, travaillaient, avaient des postes de direction, étaient profs, enseignantes, et tout ce qu'on veut, et ils leur ont obligé de porter le voile. Ils les ont obligés à reporter le voile. Et partout où il y a des mouvements islamistes intégristes, le premier mouvement, c'est de reprendre le contrôle sur les femmes en leur imposant déjà le voile.
Bon, puis après la femme voilée, je parle des deux livres, parce que je pense que c'est important pour toi d'éventuellement introduire les deux livres voyés. Après la femme voilée, vous avez écrit la femme et le Coran. Le Coran et les femmes. Et quelles sont les principales sourates qui commandent la soumission de la femme? Comment ça s'articule avec la
On ne peut pas dire qu'il y a une articulation. Ce que l'on appelle les chapitres du Coran ou sourates ne constitue pas un développement continu sur un point précis. Je veux dire par là que le mot chapitre dans notre littérature, c'est un thème qu'on traite et qu'on traite tout au long du chapitre pour passer à un autre thème au chapitre suivant. Ce n'est pas le cas. Autrement dit, tout au long du Coran, dans les différentes sourates, il y a des versets qui s'adressent aux femmes ou qui traitent les femmes. Il y a deux versets, disons, les plus importants quand il s'agit des femmes. C'est celui qui traite de la répudiation, qui s'appelle la répudiation. Et il y a l'autre qui s'appelle des femmes. Mais on trouve d'autres sourates, encore une fois, des tas de versets qui précisent quel doit être le traitement fait aux femmes et quels sont les droits et les devoirs des hommes et des femmes. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a tel chapitre précisément qui traite des femmes, même s'il y a un chapitre qui s'appelle les femmes.
Oui.
Ceci étant, alors, c'est vraiment sur le plan temporel. Sur le plan spirituel, il est dit que la femme et l'homme sont égaux devant Dieu.
Oui.
Ils sont même tellement égaux devant Dieu qu'ils subissent les mêmes châtiments et les mêmes récompenses, hommes et femmes, une fois qu'ils sont morts.
Donc sur le plan spirituel, c'est
l'égalité.
C'est l'égalité, pas sur le plan temporel.
Alors sur le plan temporel aussi, si l'un et l'autre se comportent mal, ils sont punis sur le plan temporel aussi bien que sur le plan spirituel. Mais dans la société et dans la famille, il est dit que l'homme a prééminence sur la femme, ou que l'homme est supérieur à la femme, ça dépend des traditions, mais enfin le terme de prééminence me paraît très bon, et que en fait c'est lui le chef de la famille, et que la femme lui doit obéissance comme l'homme doit obéissance à Dieu.
Voilà, alors, et qu'elle est donc considérée comme mineure.
Mineure à vie.
Et ça, c'est écrit dans une sourate.
Dans un verset.
Dans un verset. Mais
sourate, ça veut dire...
verset.
Non, sourate, ça veut dire chapitre.
Mais on n'écrit pas... Est-ce qu'on écrit... c'est pas le terme mineur qui est dans
non, c'est le terme de prééminence.
prééminente,
oui,
que les Occidentaux ont traduit par mineur.
Les Occidentaux n'ont jamais traduit le Coran en mettant le terme de mineur, mais ils ont interprété
que prééminent,
cette prééminence signifiait minora des femmes.
Minora des femmes, c'est ça que je
voulais. Mais,
à ton avis, c'est une interprétation juste?
C'est une interprétation juste, dans la mesure où, par exemple, s'il y a mariage, la femme a besoin d'un tuteur matrimonial pour être mariée, alors que le futur époux n'en a pas besoin.
D'accord.
Pour ce qui est, par exemple, devant la loi, il faut deux femmes témoins pour un homme témoin. C'est-à-dire qu'il manque un homme, il faut, pour le remplacer, deux femmes. La femme a droit à la moitié de l'héritage, de la part d'héritage qu'aurait son frère. Voilà. Il y a déjà une forme de minora. Ensuite, la femme ne peut pas être polygame, bien entendu. C'est le droit
des
hommes, unilatéral. De la même façon que la femme ne peut pas répudier son mari. C'est le droit unilatéral des hommes.
Dans
la femme peut demander le divorce.
Dans quelles conditions est-elle répudiée?
Dans n'importe quelle condition.
Comment ça?
Ça veut dire que si son mari est capricieux, parce qu'il n'a pas fait la cuisine qu'il souhaitait ce jour-là, ou s'il lui en veut parce qu'elle n'est pas contente qu'il ait une seconde épouse, ou si elle ne lui donne que des filles au lieu de lui donner des garçons, ou si elle est stérile, ou si il lui trouve mauvais caractère, n'importe quoi peut l'amener à la répudier. Il n'a de compte à rendre à personne. Il lui suffit de dire la formule de répudiation.
Qui est laquelle?
Je te répudie.
Je te répudie.
Il l'a dit une fois dans certaines sociétés, trois fois dans une autre, devant témoin ou sans témoin, de préférence devant témoin.
Elle
n'a
c'est
pas grave. Et elle n'a qu'à se tailler.
Et
autre forme de minora, elle ne peut jamais être la tutrice de ses enfants. Elle ne peut en avoir que la garde. Et c'est le père qui décide de tout concernant les enfants, y compris de l'endroit où ils vont habiter avec leur mère, y compris le droit de retirer ses enfants à la mère, etc.
Et où va-t-elle vivre quand elle est répudiée?
Alors, traditionnellement, quand elle était répudiée, elle retournait vivre dans sa famille, et si son père était mort, elle retournait chez son frère aîné. C'est-à-dire qu'elle retournait dans sa famille d'origine qui devait la prendre en charge.
Comment elle a été reçue?
Normalement, sachant que la répudiation se fait avec tellement de facilité et que les remariages se font avec tellement de facilité, parce que le mariage n'est pas un sacrement. C'est
et
un contrat civil.
La répudiation est une forme de solution pour les couples aussi. Elle peut être envisagée comme ça.
Mais bien entendu, il y a beaucoup de chercheurs qui disent que du fait de la répudiation, et grâce à la répudiation, si j'ose dire, les femmes peuvent connaître plusieurs hommes dans leur vie. En effet.
Parce qu'elle peut être prise par un autre.
Elle peut, au bout de trois mois d'attente, elle peut se remarier. Ou elle peut être remariée.
Et la répudiation, il y a un verset dans le Coran qui parle de ça.
Toute une série de versets dans le Coran qui expliquent les conditions de la répudiation, et surtout les compensations à laquelle la femme peut avoir droit, pas toujours, mais peut avoir droit quand elle est répudiée. C'est-à-dire que si elle est répudiée, par exemple, le jour de ses noces, sans avoir jamais pas été touchée par son mari, pas déflorée, elle garde la dot que ce mari a versée pour le mariage. Et il n'y a pas de mariage sans dot. Si elle a couché avec son mari et qu'au bout de 3-4 jours ou un mois elle est répudiée, elle en garde une partie. Mais autrement, elle n'a droit à aucune compensation.
Parce que je suis en train de me dire que peut-être que la traduction du mot arabe par le mot répudiation compromet la signification de cet acte. je ne crois pas. Parce que c'est une forme de légalisation de la séparation aussi. Puisque tu me dis qu'elle est reçue chez son frère ou chez son père, elle est bien reçue.
Enfin, elle est reçue à peu près normalement, puisqu'elle ramène une partie de ses biens.
Oui.
Parce que c'est souvent les parents qui reçoivent la dot plutôt que la femme, même si le Coran indique que c'était à la femme qu'il fallait verser la dot, et que les parents savent qu'au bout de 3 mois, ils pourront la remarier à quelqu'un d'autre, donc s'en débarrasser de nouveau. Donc la répudiation n'est pas quelque chose de dramatique à première vue, si ce n'est que ça la prive de ses enfants. Et que la répudiation, de ce point de vue, est considérée comme une véritable épée de Damoclès pour une femme. Parce qu'elle est privée de ses enfants. Ah.
Et qu'elle n'a pas le... C'est-à-dire que...
Elle peut avoir le droit de garde si les enfants sont...
Oui, mais elle n'est pas auteur, aucunement auteur. Elle a subi complètement.
Bien entendu. Et souvent, elle n'est même pas mise au courant de la répudiation. C'est-à-dire, au moment où le mari la répudie, il ne la tient pas au courant, il ne lui dit pas. Elle n'est pas obligée d'être présente quand le mari la répudie.
Que se passe-t-il avec une femme adultère?
On la tue.
Dans tous les pays musulmans. Oui. Même ceux qui ont fait la modernisation.
Ah, ceux qui ont fait la modernisation, non. Là où il y a les codes de la famille, c'est maintenant assez rare que la femme adultère soit lapidée ou tuée d'un coup ou d'un coup de revolver, mais normalement, elle mérite la mort.
Mm-hmm.
Souvent d'ailleurs, même si la loi ne prévoit plus la mise à mort de la femme adultère, la famille s'en charge. Parce que la femme adultère compromet la pureté et l'honneur de la famille.
C'est curieux parce que j'établis une relation avec Eleanor d'Espagne. Tu sais qu'il y a une valeur essentielle, que ça doit venir de cette source culturelle.
Ah, certainement. Mais ça vient de toute la Méditerranée.
Ouais.
Les crimes d'honneur existent encore aujourd'hui, même quand ils ne sont pas reconnus par la loi. Mmh. Encore que Saddam Hussein, il y a une dizaine d'années, un peu après la guerre du Golfe, je crois, 31 avant, je ne sais plus, a légalisé les crimes d'honneur, en disant que l'homme qui tuait sa sœur, sa mère, sa cousine, sa femme, parce qu'elle s'était mal comportée, parce qu'elle était adultère, ne serait pas poursuivie par la loi. Alors que c'est un État dit laïque.
Bon, le statut de la femme n'est pas le même dans tous les États musulmans. Il y en a ceux qui ont accepté de moderniser la loi.
Oui.
Et d'autres qui appliquent la loi coranique dans sa pureté.
Oui, oui.
Alors, quelle est la différence, les différences principales entre ces deux États?
Les différences principales, c'est précisément à propos de l'adultère, il n'y a plus de mise à mort officielle, légale. Il y a accordé aux femmes le droit au divorce, mais dans des conditions souvent très spécifiques, très particulières.
C'est-à-dire le droit de demander,
la séparation aux femmes. Mais souvent, elle doit faire la preuve que le mari ne couche plus avec elle depuis X temps, qu'il ne les entretient plus, qu'il est à l'étranger, qu'il ne renvoie pas d'argent, qu'il est malade mental, qu'il a une maladie contagieuse ou sexuellement transmissible. Donc là, il faut qu'elle prouve le bien fondé de sa demande de divorce. Le mari n'a pas besoin de ça.
Bien sûr.
Dans certains États, comme par exemple en Égypte maintenant, la répudiation ne doit se faire qu'en présence d'un juge. C'est-à-dire que le mari dit « bon, je te répudie », mais une fois qu'il a dit « je te répudie », il faut qu'il le fasse, qu'il en prévienne sa femme et qu'il le fasse publiquement, devant un juge. Bon, c'est ça qu'a apporté les codes de la famille par rapport à la loi islamique.
D'accord. Y a-t-il un seul pays où les musulmans ne soient satisfaits?
Oui, grosso modo, on pourrait dire que la Tunisie est le pays le plus libéral de tous les pays musulmans, de loin. La Turquie est un pays laïque, donc elles sont satisfaites. Les femmes des villes instruites le sont, les femmes des campagnes en Anatolie ne le sont pas, parce que c'est la tradition la plus pure, avec enfermement, voile, séparation des rôles, différenciation des rôles et séparation des sexes, mariage arrangé, etc., etc. Donc, pour une femme qui a pu aller à l'école, la plupart du temps, elle prend conscience qu'elle pourrait faire mieux. Donc, elles ne sont pas toujours très contentes.
Y a-t-il des mystiques chez les musulmanes?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y en a eu, il y en a certainement encore. Pas forcément parmi les...
Elles sont reconnues comme mystiques?
Elles sont reconnues...
Comme Sainte Thérèse, mais je
pense à... Oui, oui et non. En général, les mystiques en islam, sauf dans les régions où le soufisme joue un rôle important, le mysticisme est très très mal vu en islam, parce que ils disent que le mystique se compare à Dieu. Donc, se comparer à Dieu, se déclarer Dieu soi-même, ou proche de Dieu, est quelque chose d'inacceptable.
Qu'y a-t-il de commun entre les musulmanes et les occidentales? Comme ça, du point de vue de l'humiliation, de l'injustice.
Ben oui, déjà, pour celles qui sont instruites, je ne parle pas celles qui sont tellement enfouies dans la tradition que leur situation leur paraît tout à fait normale. Mais je parle de celles qui sont allées à l'école, qui ont l'occasion de réfléchir, de voir d'autres formes de solidarité, d'autres possibilités. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de gagner de l'argent, elles ont envie d'être autonomes. Elles ont envie...
Et c'est là qu'on peut faire des rapprochements entre les musulmanes et les femmes d'Occident.
Mais bien entendu.
Parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes pour les deux sexes, un Occident et un Orient.
Oui, mais bon, il y a pas mal de femmes quand même qui ont pu accéder grâce aux études à des
Oui, mais ça reste minoritaire.
Et ça reste minoritaire par rapport à la... comme en Occident. Donc ça reste minoritaire par rapport à une majorité de la population qui est rurale.
Est-ce que tu pourrais dire un petit mot sur le rapport entre les hommes et les femmes à l'intérieur du foyer et sur leur rapport sexuel?
Oui. À l'intérieur du foyer, si le couple n'est pas trop mal assorti, soit parce que le couple s'est choisi dans des pays plus modernisés, soit parce que les parents ont tenu compte du goût des jeunes gens, ou de la jeune fille par rapport au mari qu'on veut lui donner, qui n'est pas forcément un jeune homme. Hein. Parce que pour se marier, il faut présenter une dot, et la dot est parfois difficile à rassembler pour un mariage. Donc souvent, les hommes se marient plus tardivement, en particulier dans les couches les moins favorisées. Mais si les parents tiennent compte du souhait de la jeune fille, du jeune homme, ou de l'homme, bon, il peut se créer une certaine affection. Parfois même de l'amour, ça peut naître, si les deux personnels sont des personnages dignes, si le mari n'est pas trop despotique, parce que l'éducation fait des hommes des despotes tout naturellement, mais s'il a surmonté cette éducation et a pris conscience de la valeur d'une femme, s'il croit ce que dit le Coran d'ailleurs, à savoir que la femme est un vêtement pour l'homme et que l'homme est un vêtement pour la femme, autrement dit, qu'il doit y avoir une réciprocité de respect et d'affection, que les deux éléments du couple se doivent, affection, on ne parle pas d'amour, mais d'affection, les choses peuvent se passer très bien. Il n'empêche que les seules femmes dans lesquelles la majorité des hommes musulmans ont confiance, c'est leur mère, éventuellement leur sœur. Ce sont les seules femmes qu'ils connaissent. Toutes les autres femmes leur sont interdites avant le mariage. Et,
donc ils ne les approchent pas.
Ils les approchent par la prostitution, ou la cuisine, en cachette, parce que la sexualité est vivante. Donc il se passe des choses.
Et les rapports sexuels.
Mais les rapports sexuels ne sont autorisés qu'à l'intérieur du mariage.
Ils sont variés, ils sont intéressants.
Ils peuvent être variés, ils peuvent être intéressants. Il n'y a pratiquement pas d'interdit sexuel, sauf la sodomie. Comme par hasard, est très pratiqué. Mais normalement.
Parce qu'il y a beaucoup d'homosexualité.
Non, moi je dirais que l'homosexualité vient de l'absence de femme.
Ah, oui.
Donc c'est inverse. Et qu'un homme qui est marié est rarement homosexuel, sauf dans des sociétés très raffinées, comme autrefois.
Alors, dernière question, respectant son horaire. quel est le rôle que les femmes peuvent jouer dans la réforme de l'islam?
Bah déjà, un rôle d'éducatrice vis-à-vis de leurs garçons et de leurs filles. C'est-à-dire essayer de les élever de la même façon, de sorte que les garçons n'aient plus cette peur phobique des femmes et n'aient plus ce mépris maladif et cette misogynie contre les femmes, sauf leur mère et leur sœur, qui sont les seules femmes respectables, sauf si leur épouse leur convient. D'autre part, il y a tout un travail qui est à faire sur les textes sacrés pour finir de ne les considérer qu'à la lettre et pour ne reconsidérer que l'esprit. Et ça, les femmes peuvent également jouer un rôle important.
C'est d'ailleurs le rôle que tu as joué avec tes livres.
J'essaie.
Merci beaucoup.